Nous sommes dans notre société dans un processus de déconstruction de la famille qu'il n'est pas besoin de détailler. Rappelons-nous simplement qu'en tant que citoyens, nous devons faire tout notre possible pour que l'État adopte de bonnes lois, des lois positives qui ne soient pas contraires à la vie, contraires à la famille. Et pour cela, je crois qu'il est important, et le pape Benoît XVI l'a fait il y a quelque temps, de rappeler qu'il est de notre responsabilité de soutenir, de faire partie de ces associations qui ont pour but précisément d'inciter l'État à adopter des lois qui soient des lois positives, des lois pour la famille. Je pense bien sûr aux associations familiales catholiques, mais aussi certainement à d'autres associations. Pourtant, cela n'est pas tout à fait suffisant. Vous voyez, nous sommes dans une situation qui ressemble plus à celle des premiers siècles qu'à celle du Moyen-Âge, des temps de chrétienté. À cette époque, les chrétiens n'étaient pas défendus par l'État. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, par leur propre vie, par leur témoignage, ils ont réussi petit à petit à changer les lois de l'État. Changer les lois de l'État par leur comportement, plutôt que de viser d'abord de changer les comportements par les lois de l'État. Les deux vont ensemble, hein. Mais à l'heure actuelle, peut-être que le moyen le plus à notre portée, en tout cas, c'est d'essayer, par notre comportement, de changer les lois de l'État. Alors la prière d'ouverture de cette messe mérite d'être réentendue. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Voilà, une invitation à pratiquer les vertus familiales à l'exemple de la Sainte Famille. C'est ce que nous devons essayer de chercher particulièrement aujourd'hui, hein, de retrouver dans quel sens nous devons essayer de construire nos familles, les familles dont nous avons la responsabilité. C'est donc sur la Sainte Famille que se pose notre regard et que s'arrête notre méditation, alors que nous sommes encore dans la lumière de la nativité toute proche. Joseph d'abord. Le pape Jean-Paul II, dans une encyclique qu'il a consacrée à Joseph, dit « tout le mystère de Joseph, en parlant de lui comme du gardien du Rédempteur. Le gardien du Rédempteur. Joseph fait figure d'un être qui est totalement présent, totalement impliqué et en même temps totalement discret. Comme Marie, il a bénéficié d'une annonciation, il a reçu de Dieu. Comme Marie, il a dû consentir, il a dû donner. Dieu est passé dans sa vie. Marie ensuite, le mystère de sa vie, comme celui de Joseph, est marqué de ce sceau de la discrétion. Comme pour Joseph, à une présence, à une implication totale, se joint une discrétion inégalée. Vous voyez, ce qui est frappant, c'est que dans la vie de ces deux êtres, Dieu passe, mais il ne passe pas sans leur consentement. Ils passent par eux. Ils sont associés au mystère de l'accomplissement de ce geste d'amour qui vient là du plus profond du cœur de Dieu, l'incarnation du Verbe, le don à l'humanité du Sauveur. Tout passe par eux. Ils sont appelés à tout recevoir, mais aussi à ne rien garder pour eux. D'emblée, ils vivent de cette logique de générosité qui sera celle au plus haut point de l'enfant auquel ils offrent l'hospitalité de leur existence. Cette logique de tout recevoir du Père pour tout lui redonner, de tout recevoir de Dieu pour tout donner aux hommes. Regardons d'ailleurs l'enfant lui-même. En ces jours de la nativité, il est l'objet constant de notre méditation et de notre action de grâce. Son mystère défie notre entendement. Ce mystère s'adresse d'ailleurs, en fait, prioritairement à notre cœur. Et c'est à partir de ce centre de notre être que va rayonner la lumière qui ouvrira notre intelligence à ce qui est inouï, Dieu se fait homme. L'amour éternel, l'amour le plus personnel, le plus dense, l'amour divin, révélé et partagé dans un être humain. L'humanité du Christ doit faire l'objet de notre méditation. En elle se révèle l'écrin d'une plénitude d'innocence et de bienveillance dont on ne finit jamais de prendre la mesure. En lui, Dieu se révèle et Dieu se donne à voir. Voyez, Joseph et Marie vont être les premiers d'une longue série de croyants de tous les lieux, de tous les temps, jusqu'à aujourd'hui, à se faire disciples de cette humanité de Jésus. En scrutant cette humanité de Jésus, ils vont apprendre, dans un seul mouvement, à connaître la forte et douce vérité de Dieu, mais aussi la manière dont il convient de vivre leur vie d'homme et de femme créée à son image et à sa ressemblance. Oui, la Sainte Famille mérite que nous prenions du temps pour la contempler. En même temps, la Sainte Famille est si particulière qu'on peut avoir quelques difficultés légitimes à s'y reconnaître, à y reconnaître nos familles. Il faut toutefois songer à l'ordinaire de la vie qu'ont partagé Joseph, Marie, Jésus, au jour le jour. La perfection de cette famille s'est inscrite dans la modestie du quotidien qui est commun à toute l'humanité. Alors il faut se garder d'éloigner trop le mystère de la Sainte Famille de notre réalité, en ne faisant une famille rêvée, une famille par trop idéalisée. En méditant sur ce mystère liturgique et en le tenant aussi proche que possible de la vérité de notre humanité, peut-être que ce que nous devons faire, c'est surtout prendre la mesure du mystère, de la grandeur, de la vocation de nos propres familles. Elles sont le premier lieu de découverte et d'exercice des relations de personne à personne. Elles sont la première école pour la rencontre, pour la découverte, pour l'apprentissage du respect et la mise en valeur de l'autre. Hein, pensons à la façon dont Joseph a dû chercher à mettre en valeur Marie, dont Marie a dû chercher à mettre en valeur Joseph. Elles sont aussi la première école pour la découverte de Dieu, tel qu'il se révèle dans le Seigneur Jésus. S'il est vrai, comme on vient de le dire, que Joseph, comme Marie, ont vécu complètement, au rythme du Verbe fait chair, leur enfant et leur Seigneur, cela est vrai aussi de nos familles humaines. Et sous ce rapport, nos familles ne sont pas seulement des lieux où nous cherchons à pratiquer les vertus familiales, en tout cas au sens moral du terme. Il faut aller plus loin et en quelque sorte remonter à la source même de cette vie partagée en famille dans le respect et l'amour mutuel. Il faut aller jusqu'au goût partagé de la prière, de la célébration, de l'accueil du Seigneur et de son amour. Et il faut aller jusqu'au Christ pour bien comprendre le mystère de nos familles. Toutes les lectures d'aujourd'hui nous le disent d'ailleurs. Dans la première lecture, il y a Anne qui, quand Dieu lui donne l'enfant qu'elle a demandé, le consacre à Dieu, en reconnaissant qu'il ne lui appartient pas à elle, mais au Dieu qui lui a donné la vie. Dans la deuxième lecture, Saint Jean nous dit que nous sommes tous enfants, pas d'abord de nos parents, mais de Dieu. Et dans l'Évangile, l'enfant Jésus proclame qu'il appartient à Dieu, Dieu son Père, avant Joseph. Alors voyez, au fond, la grâce propre de cette célébration de la Sainte Famille, je crois que c'est de découvrir, redécouvrir que toute famille humaine, à sa petite échelle, est une véritable cellule d'Église, un lieu de communion au sens fort du mot. Les pères de l'Église en parlaient en tant qu'ecclésiola, ce qui se traduit littéralement par une petite Église. Cellule donc qui vit de la vie même du corps auquel elle appartient, la grande Église, qui est le corps du Christ, le temple de l'Esprit. C'est donc d'une vie eucharistique que doivent chercher à vivre nos familles. Vie où l'on reçoit et où l'on donne rien moins que le Christ lui-même. Au fond, qu'il s'agisse de la Sainte Famille ou de nos familles, il s'agit toujours d'apprendre à recevoir et à partager ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire le Christ. Alors cela ne se fait pas en un jour, cela ne se fait pas en un clin d'œil. Beaucoup d'entre vous le savent, qui sont là, représentants de familles qu'ils aimeraient voir peut-être plus totalement présentes au cœur de l'Eucharistie. Ayons confiance, patience, confiance, persévérance. Votre présence est déjà là pour recevoir le Christ et pour ensuite aller dans la simplicité, le porter au cœur de vos familles. Et en faisant cela, vous êtes tout à fait dans ce cheminement que le Seigneur cherche lui aussi à faire vivre à vos familles, à placer au cœur de l'Eucharistie vos familles. Confions bien ces familles dans notre prière aujourd'hui, au cœur de notre messe. Je voudrais aussi dire un mot des célibataires, parce qu'il y a une messe, une célébration, une fête de la Sainte Famille. Il n'y en a pas spécialement consacré aux célibataires, mais je voudrais dire que moi, mon expérience de la vie de famille un peu élargie, c'est que les célibataires ont toujours représenté un peu les clés de voûte entre les diverses familles de la famille élargie. Et je crois qu'ils trouvent toute leur place dans la perspective de la famille comme petite église. Nous savons, en tant que prêtres, à quel point les célibataires peuvent aider l'Église, peuvent nous aider. Aider en tout cas à faire de l'Église une famille de familles. Alors nous voulons aussi les porter dans notre prière aujourd'hui. Voilà, confions au Seigneur toutes nos familles, confions toutes celles que nous voudrions plus présentes ici, toutes celles que vous représentez, confions au Seigneur toutes les familles qui peinent à rester unies. Faisons-le dans une grande confiance. Si la famille est au cœur du mystère de Dieu, eh bien, nous savons que Dieu travaille à aider, à faire grandir chacune de nos familles. À son rythme, eh bien, nous l'acceptons dans la patience, dans la persévérance. Amen.